t'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi au Kasai Oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour et merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous accorde la parole pendant ces 57 minutes interactives. La Cour constitutionnelle de la RDC ne compte désormais que 6 juges au lieu de 9. Après la mort d'un juge de dimanche 8 avril dernier et la démission un jour après de 2 autres juges, une certaine opinion estime qu'à l'état actuel, la Haute Cour connaît un dysfonctionnement qui pourrait impacter sur les processus politiques et électoraux en République démocratique du Congo. Qu'en pensez-vous? À l'adresse pa@radiokapi.net, vous pouvez participer à cette émission en direct en composant les 081 890 63 30 ou encore au 081 890 49 69. Et vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook. Toute l'équipe est là pour vous tenir compagnie tout au long de ces 57 minutes interactives. Jean Bassunga qui est avec nous, donc Polydor Bassunga qui est avec nous à la mise en onde et Pierrot Elamegi à la réalisation de ce programme supervisé par Martin Sebujagwe et coordonné et présenté par J.R. Lou Ngembo Luabung Anji. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs. Par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Maître Kaozi Pichou est avec nous dans ce studio. Il est le directeur adjoint de cabinet en charge de l'administration des questions juridiques et judiciaires du président de la Cour constitutionnelle et secrétaire de plénière. Bonjour Maître Kaozi.
Bonjour.
Alors d'entrée de jeu, est-ce que c'était pas un coup dur pour la Cour constitutionnelle, surtout la mort d'un juge et par après la démission des deux juges au moment où on attendait procéder au remplacement des 3 juges et sur base donc de tirage au sort?
Oui, effectivement, c'était un coup dur parce que, comme vous le savez, la mort, on ne peut pas la prévoir et que c'était une surprise désagréable de perdre l'un des juges de renom en la personne du juge Kalonda Keleoma Yvon, d'heureuse mémoire. Et aussi la démission séance tenante lorsque la Cour devait se réunir pour le tirage au sort. Donc c'est un coup dur.
Alors qu'est-ce qui cache cette démission? Est-ce que les démissionnaires, si vous les permettez, étaient déjà au courant que, au fait, il y avait des manœuvres dilatoires pouvant les amener déjà à la porte de sortie? Parce que selon les rumeurs, ça c'est juste des questions de curiosité.
Ça, nous ne pouvons pas l'affirmer parce que... lors de la tenue de la dite séance publique, c'est là que nous étions surpris de voir que les deux juges déposaient leur démission alors qu'on ne pouvait pas le pressentir.
Alors, est-ce que cela aura un impact sur le processus politique et électoral, et surtout à 8 mois du scrutin?
En l'état actuel, je dirais non. Pourquoi? Parce que les mécanismes sont prévus aussi bien dans la Constitution que dans la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. On sait que les 3 autorités de désignation, à savoir le Conseil supérieur de la magistrature, le Parlement réuni en congrès, ainsi que le président de la République lui-même, sont censés procéder à la désignation des remplaçants. Or, comme vous le savez, le Parlement présentement est en session et que donc il n'y a aucune difficulté. Je peux vous informer que le Conseil supérieur de la magistrature, en son bureau, avait déjà procédé à la désignation de celui qui est censé remplacer le partant pour ce qui le concerne.
Alors, est-ce que, à l'absence de ces 3 juges, la Cour peut-elle siéger?
Comme vous devez le savoir, la loi a prévu que la Cour siège à 9, sauf cas de force majeure. Celle-ci peut se réunir à 7. Et que donc, pour l'instant, étant donné que il y a 3 juges qui sont partis, et que donc la Cour ne sait pas...
Se réunir à 7.
Se réunir...
C'est, impos- C'est impossible.
La Cour ne peut pas se réunir à 7, mais pour le reste, elle-même, elle peut apprécier, comme dans le cas d'espèce, il y a ce juge qui est parti. Une audience solennelle est censée être organisée. Vous comprendrez que nous nous retrouvons devant un cas de force majeure où un juge ne peut pas être mis en terre sans qu'une audience solennelle ne puisse avoir lieu. Mmh. Je suppose que la Cour devra constater le cas de force majeure et se réunir pour ce faire.
Alors, admettons qu'il y ait un contentieux en ce moment qui demande à ce que la Cour puisse statuer. Comment ça va se passer ?
C'est ce que je venais de dire tantôt là, que tout doit être mis en œuvre et tout est en train déjà d'être mis en œuvre.
Donc il y a urgence.
Il y a urgence.
Au niveau du Parlement, au niveau de la présidence de la République et au niveau du Conseil
supérieur. Vous l'avez suivi au niveau du Parlement, les deux bureaux du Sénat et de l'Assemblée nationale s'étaient déjà réunis pour justement désigner celui qui doit venir de ce côté. Et je venais de vous informer tantôt que le bureau du Conseil supérieur s'est déjà réuni quant à ce qui le concerne et a déjà transmis, parce que la loi prévoit que dans les 48 heures de la désignation, le nom doit être transmis auprès du chef de l'État. Donc, je suppose que l'un de ces quatre matins, nous serons en train d'apprendre que les ordonnances ou l'ordonnance de nomination sera signée.
Alors, quelles ont été les motivations de cette démission des deux autres ?
Nous avons...
Vous, en tant que chargé des questions administratives, est-ce que vous avez été notifié ou signalé des motivations de leur démission ?
Eh bien, écoutez, c'est lors de la séance, comme je venais de le dire. Mmh. La Cour a convoqué la séance...
Et jusqu'à ces jours, ils n'ont jamais motivé ça.
La Cour a convoqué sa séance pour le 9 avril, et c'est le 9 séance tenante qu'ils ont annoncé leur démission, et ils ont dit que c'était pour des convenances personnelles. Et que donc, jusqu'à preuve du contraire, ils sont les seuls à pouvoir maîtriser les motifs ou les raisons de leur démission.
Voilà, on va ouvrir le standard pour accueillir les auditeurs qui tiennent assez à participer ou à débattre avec nous dans cette émission. Dieudonné est à Mahagui, Boniface est à Kalemi, Alain Bolodjoa à Mbandaka, 09 97 06 63 30 ou encore le 09 97 06 49 69 pour votre intervention directe.
Parole aux auditeurs.
Dieudonné, vous êtes à Mahagui. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, monsieur J.R. Lungembo. Bonjour aussi à l'invité maître Kaozi. Et aussi bonjour à tous les auditeurs de la Radio de la Paix.
La Cour constitutionnelle de la RDC ne compte désormais que 6 juges au lieu de 9. Est-ce que vous ne craignez pas, comme les autres, qu'il y ait un dysfonctionnement qui pourrait impacter sur le processus politique et électoral à la RDC ?
D'abord, M. J.R., permettez-moi de présenter mes condoléances tout en disant paix à l'âme de l'illustre disparu après avoir rendu service à notre beau pays, la République démocratique du Congo. Quant aux démissions simultanées des deux autres juges après le décès de leurs collègues, M. J.R., cela montre noir sur blanc qu'il y a un sérieux problème au sein de la Cour constitutionnelle. Alors que nous, comme le peuple, on s'attendait juste au tirage au sort pour faire partir les uns par la grande porte, comme prévu. Mais hélas, aujourd'hui, on assiste à d'autres scénarios. Et aussi, nous savons d'où nous venons, avec surtout ces régimes, mais jusque-là, il y a du mal à comprendre et nous avons du mal à savoir si nous allons juste où et aussi... Surtout que l'avenir semble déjà être pour nous tout un mystère. Néanmoins, M. J.R., c'est l'avenir, nous dira la suite, surtout de cette Cour constitutionnelle. Car il est important de rappeler, juste pour finir, que mieux vaut commencer quelque chose mal pour finir bien, plutôt que de commencer bien pour finir mal. Aujourd'hui, voilà, quand M. Kaozi, le maître Kaozi affirme qu'il n'y a pas de crise et tout ira bien, mais est-ce qu'il peut nous garantir par rapport à la légitimité ? Est-ce que c'est transparent ? Et quand il affirme que les deux juges démissionnaires n'ont rien signifié, ils se sont juste évadés. Alors, on a du mal à comprendre comment, qu'est-ce qui est la une véritable motivation de démission, alors qu'on s'attendait au tirage.
Oui, oui, Dieudonné, est-ce que vous avez les mêmes analyses? Est-ce que vous faites les mêmes analyses lorsque les commets des mortels, pensent que, effectivement, les mêmes juges qui viennent de démissionner, ce sont les mêmes qui séchaient parfois certaines plénières, et lorsqu'il s'agissait de prendre des grandes décisions, notamment des arrêtés ou des jugements qui pouvaient au fait départager les politiques.
Voilà, parce qu'ils n'étaient pas des mêmes assiettes. Ils savent réellement qu'il y a un chaos, ils savent qu'il y a un véritable problème, il y a une crise. Pas bien même Maître Kaos est en train de nier. En fait, ils savent, et surtout que maintenant, on a du mal, parce qu'on ne sait pas, on n'est pas garanti. On est presque déjà dans quelque chose qu'on ne se retrouve plus.
Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Dieudonné. Alors, pour vous, cette démission prouve à suffisance qu'il y a un problème au sein de la Cour constitutionnelle, qui est censée être la dernière cour, la haute cour, pouvant résoudre les différents contentieux au sommet de l'État. Mais voilà que aujourd'hui, ça saute noir sur blanc aux yeux qu'effectivement, il y a des malaises, quoique notre invité ne l'accepte pas, comme vous l'avez dit, Dieudonné. Merci beaucoup. Alors, Boniface, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour. Je salue M. Kaozi qui est avec nous au studio. Je dis aussi paix au juge de Renault qui est mort de la haute cour. Alors, je vais signaler à l'opinion qu'elle ne doit pas se laisser entraîner par les illusions que nous font certains politiciens ou certains politiques ou à travers les réseaux sociaux et consorts. Ici, je crois qu'il n'y a pas de crise au sein de la Cour constitutionnelle. Il y a mort, c'est un fait naturel, bien sûr. Il y a aussi deux juges qui ont démissionné. Ils n'ont pas fait savoir pourquoi. Bon, ils ont démissionné, bien sûr, pour raison de conférence personnelle. Oui, c'est normal. Tout travailleur a d'ailleurs démissionné. Il cherche l'emploi, il est libre de chercher l'emploi, tout comme il peut démissionner. Alors, ici, je crois que, comme M. Kaos l'a dit, c'est un cas de force majeure. Nous avons dépassé légèrement les délais qui étaient prévus pour le tirage au sort. Alors, deux juges ont démissionné, bien sûr. Il y a un qui est mort. Alors, je crois que, selon les procédures, selon la Constitution, l'article 58, c'est simple. On va voir, on va apprécier est-ce que les deux qui ont démissionné, ils font partie de trois groupes de membres qui composent la haute cour ou la cour constitutionnelle. On va voir aussi notre défunt juge qui est mort, est-ce que les trois font partie de ces trois groupes. Et c'est de cette manière que on va désigner l'un selon les mandats, soit du Parlement, soit
du Conseil supérieur, de la magistrature,
de la
présidence.
Oui, soit de la présidence, on va les nommer pour combler les vides. Je crois qu'il n'y a pas...
Il n'y a pas de dysfonctionnement.
Et cela n'influe même pas au fonctionnement des institutions de la République. Tout va normalement. Je pense que tout va normalement. Heureusement que M. Kaos nous a signalé que il y a des tentations déjà au niveau du Parlement.
Au niveau du Parlement, au niveau du Conseil, oui. Voilà. Alors, merci beaucoup, Boniface. Nous retenons, en tout cas, contrairement à ce que venait de dire Dieudonné, vous notez qu'il n'y a pas crise au sein de la Cour constitutionnelle. Est-ce que cet avis est partagé par Alain de Mbandaka? Alain, bonjour.
Bonjour, Radio Capi. Bonjour à votre invité. Bonjour à tout le monde.
Quelle est votre contribution?
Bon, moi, j'estime de mon point de vue qu'il y a crise. Quand même que cela ne peut pas justifier les départs et les décès, il y a quand même crise. Parce que si nous nous référons à la chronologie de certains faits, partant de ce qui s'est passé par rapport à l'interprétation de l'article 70, mais aussi par rapport à ce qui vient de se passer en rapport avec la loi électorale, et si on se réfère à ce que les autres parties prenantes ou les autres juges ont pris comme option, naturellement, on peut déduire qu'il y a crise. Mais cela ne justifie peut-être pas le décès ou le départ de ces deux juges qui sont partis. Si aujourd'hui, il n'y a pas de problème, mais nous devons savoir qu'il y a cette crise qui peut surgir à tout moment. Aujourd'hui, peut-être qu'on n'a pas senti des effets parce qu'il y a des mécanismes constitutionnels et légaux qui ont prévu comment faire le remplacement. Mais supposons que nous ayons les élections. Et pendant que nous attendions, l'arrêt de la Cour en rapport avec les résultats électoraux, que deux ou trois juges démissionnaient. Mmh. Il y a dit quelque part, ce qui est important, c'est qu'il faut qu'il y ait ces consensus en termes de décision. Il faut que le juge sente qu'effectivement, ils jouissent de leur liberté en tant que juge.
Alain, mais notre invité tout à l'heure a parlé de l'appréciation de la Cour quand ils se retrouvent devant une certaine difficulté. Nous avons vu l'interprétation de l'article 70 de la Constitution. En tout cas, tous n'ont pas siégé. Il y a deux ou trois, si ma mémoire est très bonne, qui ont séché la plénière ou de statuer. Ils ont refusé de statuer. Et cela n'a pas empêché à la Cour de sortir un arrêt.
Non, mais qu'est-ce qui s'était dit après? Quelle était l'appréciation de l'opinion? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? On a dit que, effectivement, il y avait un problème, les juges ne pouvaient pas statuer, voilà l'interprétation. Donc, ce que moi je voudrais que l'on mette en évidence, c'est que nous devons avoir une approche d'anticipation. Mmh. Aujourd'hui, peut-être il n'y a pas de grands enjeux, mais il y a eu deux départs. Mmh. Et parmi les raisons, nous savons tous que si ces juges sont partis, parce qu'au départ, quand on constituait la cour, tout le monde s'est pressé à aller dans cette cour. Mmh. Et en pensant que non, voilà, et la cour allait être suffisamment libre d'élever certaines options, de prendre des décisions. Mais ils se sont peut-être rendus compte que la cour n'était pas si libre que ça. Et c'est ce qui justifie en fait leur départ de cette cour. Alors aujourd'hui, il n'y a pas un grand enjeu. Mais la crainte maintenant, dès lors qu'il y aura élection, la
CNU, si jamais on se trouvait devant cette situation, oui.
Et que 4 sur le 9 juges démissionnés en ce moment-là, est-ce que l'Assemblée va siéger pour choisir, ou est-ce que la présidence qui est déjà sortant va siéger pour choisir les animateurs qui doivent les remplacer et constituer
C'est en ce moment-là que le problème se pose.
Sur les résultats des élections. Donc moi, j'estime de mon point de vue, et si nous voulons trouver des solutions par rapport à cette problématique, ce que nous devons faire de mon point de vue, il faudrait que les juges sentent qu'ils sont effectivement libres. C'est-à-dire qu'ils prennent des décisions en âme et conscience. Et qu'ils s'assument aussi. Parce que s'ils ont des injonctions politiques et que les autres constatent qu'ils ne jouissent pas de cette liberté-là de prendre des décisions, mais sont appelés à assumer ou à cautionner ce que les autres leur imposent, naturellement, ils ne vont pas bien faire leur travail.
Merci.
Et à tout moment, ils peuvent démissionner.
Merci beaucoup.
Moi, j'ai craint que la situation de la Cour aujourd'hui se répète pendant la publication des résultats.
Merci beaucoup, Alain Bolodjoa. Pour vous, il n'y a pas de grands enjeux aujourd'hui, mais il faut beaucoup plus appliquer l'approche d'anticipation pour nous éviter ce genre de situations à la longue. Mais néanmoins, vous insistez sur la liberté de cette cour qui pourrait nous éviter également ce genre de situations, des genres de démissions à l'avenir. Merci beaucoup, Alain. Christian, vous êtes à Kinshasa et Tsingy dans la même ville de province de Kinshasa, gardez la ligne. On reviendra à vous. Il est temps pour nous de retrouver notre invité, Maître Kaozi, qui est de la Cour. 081-890-6330 ou encore le 081-890-4969 pour votre intervention en direct.
Découvrez les modèles et les talents congolais dans le magazine Étoile. Des hommes et des femmes au parcours exceptionnel. Trouvez une source d'inspiration à travers ces personnes connues et ces citoyens lambda sur Radio Capi. Étoile, de la découverte à l'inspiration. Radio Capi vous propose des hommes et des femmes d'exception. Suivez-les dans le magazine Étoile tout le samedi à 14h05 et 19h05, puis en rediffusion le lundi à 15h30, heure de Kinshasa.
Aux auditeurs, J.R. Lungembu.
Merci une fois encore de votre fidélité à Radio Okapi. Nous sommes là dans ces studios avec Maître Kaozi Pichou, qui est le directeur adjoint de cabinet en charge de l'administration, des questions juridiques et judiciaires du président de la Cour constitutionnelle. Il est en même temps secrétaire de plénière. Alors, vous avez suivi les uns les autres. Les avis sont partagés entre il y a crise ou non au sein de la Cour constitutionnelle. Que répondez-vous aux uns aux autres?
Merci beaucoup, Monsieur JR. Je remercie aussi vos auditeurs qui ont un intérêt à votre émission et aussi aux événements de la Cour constitutionnelle. Je peux me répéter en disant qu'il n'y a pas crise à la Cour constitutionnelle. La loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, en son article 28, prévoit que tout membre de la Cour peut librement démissionné. À cette fin, il adresse une lettre à la Cour qui en apprécie l'opportunité. Il s'agit donc de faits qui sont déjà prévus par les textes légaux et que donc, librement, on peut estimer que, bon, mon temps...
Mais Maître Kaozi, il y a des indices quand même qui prouvent à suffisance qu'il y a, en tout cas, bon, c'est vrai, on peut relativiser qu'il y a crise. Lorsque les juges refusent de statuer pour, au fait, lever une option sur des questions éminemment politiques, et lorsque le Parlement tente par deux fois de recomposer la Cour, ben, c'est qu'il y a déjà un problème.
Je ne sais pas de quoi vous voulez parler lorsque vous dites que le Parlement a tenté à deux reprises de recomposer...
Parce qu'on voulait revoir le nombre de juges.
Revoir le nombre de juges, je dirais non. Ce qui est vrai, il y a le ministre de la Justice qui avait déposé un projet de loi au niveau du Parlement pour demander justement face au problème qui avait eu lieu à la Cour lorsque la Cour avait siégé à 5.
Donc c'est qu'il y avait déjà un problème.
Je dirais problème pas dans le sens où vous voulez le présenter.
Ben alors, présentez-nous les vrais problèmes qu'il y a eu. Parce que la Cour a siégé à 5 et pourtant la loi ne permet pas.
Effectivement, à titre de rappel, la Cour, avant de siéger pour le prononcer, commence par le délibérer. Au niveau du délibéré, donc, lorsque les 9 siègent en plénière, tous les juges étaient présents. Et je peux même vous dire ici, sans risque d'être contredit, la loi a prévu, dans le cadre des délibérés, que l'on procède par vote. Et lorsque la majorité se dégage, la question passe. Cependant, je vous affirme que toutes les fois que la Cour avait siégé, c'est plutôt les consensus qui s'est dégagé. C'est les consensus qui s'est dégagé pour dire ainsi que ce qui est prévu par la loi, le vote, la Cour n'avait jamais recouru à ce mode. Comme pour vous dire que la Cour avait toujours évolué avec ses 9 juges sans problème.
Évidemment. Donc les ministres n'avaient pas raison de proposer, de penser qu'il y avait déjà une crise.
J'en arrive. La Cour a siégé au niveau de sa plénière avec tous ses juges. Mais c'est au moment où il fallait siéger pour prononcer la décision, comme pour vous dire que la décision était déjà prise, parce que c'est au niveau de la plénière, c'est là où les décisions se prennent. Et que la Cour, lorsqu'elle vient siéger pour prononcer sa décision, la décision était déjà prise. Et vous vous retrouvez en ce moment-là, il y a 2 juges qui n'ont pas pu être présents. Et comme vous devez le savoir, il est de ces questions où la Cour est liée par des délais stricts. Et c'est alors que la Cour avait estimé, vous lirez la motivation de l'arrêt, a estimé qu'elle était devant un cas de force majeure et que la décision qui était déjà prise au niveau de la plénière devait être prononcée. C'est seulement alors que la Cour avait prononcé.
Et pour éviter ce genre de problème, les ministres ont anticipé.
Les ministres ont anticipé, mais la question jusque-là n'est pas encore passée au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que
l'Assemblée nationale, en tout cas la majorité a rejeté ça. La
majorité des élus n'avait pas encore rejeté parce qu'ils s'étaient posé des questions des procédures, la manière dont son Excellence, Monsieur le Ministre, avait déposé le dossier, ils ont estimé que la procédure n'était pas suivie. Donc le débat de fond n'a pas jusque-là encore eu lieu.
Voilà, donc pour vous, vous confirmez qu'il n'y a pas crise?
Je dis il n'y a pas crise parce que les mécanismes de démission sont prévus. Et s'il y avait crise, ces juges pouvaient nous le dire. Mais nous nous retenons qu'ils ont dit que c'est par...
Alors, Alain Bolodjo a parlé de l'approche d'anticipation, parce que c'est vrai, une telle situation peut encore survenir pendant les élections ou encore après les élections. Parce que comment la Cour, la loi, en fait, prévoit quel mécanisme pour éviter?
Justement, monsieur Alain Bolodjo a
raison. Parce que là, ça sera les grands enjeux.
Oui, oui, il a raison de parler de l'approche de l'anticipation, parce que des questions comme ça, comme je venais de le dire, nous nous retrouvons... pendant les contentieux électoraux où les délais sont vraiment, vraiment stricts et courts. Et la Cour constitutionnelle risque de se retrouver devant un problème. Parce que s'il faut réunir le Parlement, c'est pas une mince affaire. Et donc, je donne raison à monsieur Alain, c'est le moment de réfléchir autour de toutes ces questions pour essayer de trouver des solutions adéquates.
Alors, Alain avait même proposé une solution en disant qu'il faut que la Cour soit réellement indépendante. Parce que s'il y a des cas de démission, c'est pratiquement une fuite en avant des gens qui ne veulent pas recevoir des injonctions de qui que ce soit.
Non, non, nous ne pouvons pas affirmer les choses de cette manière-là, à moins que les concernés, les deux juges, puissent nous le dire. Mais moi...
Ils ne le diront même pas, je crois.
Ils ne le diront pas.
Nous avons obtenu le secret de...
Nous devons également éviter
de commenter à leur place.
De commenter à leur place.
Voilà, on va poursuivre ce débat avec Christian qui est à Kinshasa, Ntsingi et son ville à Lubumbashi. Christian, vous êtes avec nous, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Pierrot, merci de m'avoir associé à ce débat citoyen.
Quelle est votre contribution à ce niveau du débat, Christian?
Merci, J.R. Moi, je crois qu'il faut avoir la mémoire courte pour dire que le dysfonctionnement de la haute cour va impacter sur le processus politique et électoral, dans la mesure où c'est cette cour qui nous a amené les commissaires spéciaux en 2015 en violation des dispositions constitutionnelles sur l'élection des animateurs des provinces. Elle nous a encore amené, en fait, elle a estimé en 2016 que le président Kabila pouvait demeurer en fonction après la fin de son dernier mandat légal. Et toujours en violation de la Constitution, c'est tout même cour qui est censé protéger la Constitution. Mais malheureusement, cette fois-là, la Cour prévoyait justement, pour éviter les vides juridiques, la Constitution a prévu que le président de l'île pouvait être remplacé par temporairement par le président du Sénat. Mais cette Cour, malheureusement, a passé outre cette disposition. Et en dernier lieu, M. Pierrot, la Cour a failli être saisie par la CENI, étant donné que, en fait, en contradiction toujours avec la Constitution, étant donné que cette Cour n'a pas compétence pour justement siéger sur une question électorale. Et donc, en réalité, il faut dire que cette Cour, c'est l'incarnation du mal qui n'ose pas dire son nom. En ce sens que, pour moi, je peux l'illustrer comme étant un médecin épouvanté par sa propre maladie qu'il n'ose même pas diagnostiquer et qui se délivre à lui-même en guise de traitement un certificat de parfaite santé, dixit Georges Baudarelle. Et donc, pour tout dire, il faut comprendre qu'il n'y a pas justement de dysfonctionnement, mais sauf que cette cour a toujours fonctionné dans l'illégalité, dans la mesure où, depuis que cette cour est cour, il n'y a jamais eu des résultats. Or, les résultats, je l'avais dit l'autre fois, que c'est la seule jauge pour juger justement les dysfonctionnements de cette institution. Non. Et donc, allez-y comprendre que avant la cour, avant les dysfonctionnements, est égal après les dysfonctionnements. C'est du blanc bleu, bonnet blanc et du sous vert sous.
Voilà, merci beaucoup Christian pour vous. En tout cas, je retiens simplement qu'il y a eu autant de problèmes dans la gestion des contentieux politiques, ce qui vous amène à dire que la Cour fonctionne dans toute l'égalité, hein, l'illégalité elle-même. Merci Christian. Ntsingi, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Merci à Radio Capi et à nos très chers auditeurs.
Voilà, notre invité l'a dit, il n'y a pas crise. Certaines personnes continuent à insister qu'il y a crise au sein de la Cour constitutionnelle par suite à un manque de liberté d'esprit des juges qui travaillent. Alors, est-ce que vous pensez comme Christian que la Cour a fonctionné jusqu'alors en toute illégalité?
Merci beaucoup. La Cour constitutionnelle est une institution prestigieuse de la République. En elle est confiée la charge du suivi de l'application correcte de la Constitution, qui est notre livre sacré. Donc, cette Cour devrait être représentée par des anciens hauts magistrats prouvant la haute expression de vertu. Malheureusement, notre classe politique profane même la justice en les obligeant à l'immoralité. L'interprétation de l'article 70 en est une belle illustration. S'agissant de la crise, mais il y a trois personnes qui manquent. Il y a trois juges qu'il faut remplacer. Il faut revenir à 9 juges d'abord, c'est-à-dire promouvoir 3 juges pour combler les vides, après passer au tirage au sort. Cela est dit norme. Je sais que la majorité, dans ses soucis, il a besoin de créer ce qu'il veut créer. Mais je rappelle que le chef de l'État, Joseph Kabila, le commandant suprême des forces armées de la République, avait dit ceci. Dans la démocratie, il y a la justice. Et j'insiste, je demande à la majorité, dans le souci de rester au pouvoir, il faut respecter la justice. Parce que, aujourd'hui, la Constitution, la majorité applique la Constitution de façon sélective pour les besoins de la cause. En ces jours, nous devrions avoir l'éclatement de la Cour suprême. Mais jusqu'à aujourd'hui, la Cour suprême continue à exister et nous avons la Cour constitutionnelle. Or, on devait avoir la Cour constitutionnelle, Cour de cassation et Conseil d'État. Ça, ça a l'air de rien. Pourvu que ça marche, mes très chers compatriotes. Nous ne sommes pas dans les problèmes de la crise ou pas crise, mais nous sommes devant la réalité de la République. Que devons-nous faire pour que le pays continue à marcher? Que devons-nous faire pour montrer à la face du monde que nous avons étudié? Que devons-nous faire pour montrer à la face du monde que nous sommes des humains? Mes chers compatriotes, membres de la Cour et de la majorité.
Oui, Metingi, que vous inspire concrètement la démission de ces deux juges? Est-ce que vous pensez comme les commun des mortels que c'était une fuite à l'avant? Parce qu'on n'a pas encore procédé au tirage au sort et ils ont démissionné.
Non, non, mais quand ils vont ceux qui vont venir, on va tirer toujours au sort. Mm-hmm. C'est déjà clair qu'après 3 ans, il doit y avoir tirage au sort, révision mm-hmm. des juges. Mm-hmm. Qu'est-ce que signifie démission? En Afrique comme dans le monde entier, toute démission signifie pression de plus sans les normes. Ils ont démissionné parce qu'il n'est plus à démontrer. La Cour constitutionnelle avait rétabli le gouverneur
du Katanga et de la Tchouapa.
Qu'est-ce qui s'était passé? La classe politique a imposé à la Cour constitutionnelle de remplacer. Mais suite à cette pression, celui qui est correct, celui qui a la probité morale, celui qui est honnête envers lui-même, envers ses études, qu'est-ce qu'il doit faire? Il ne peut que démissionner. Mm-hmm. On devait savoir, aujourd'hui, la Cour constitutionnelle, elle est là juste pour l'application correcte de la Constitution. Mais les aventures, les parodies de la CENI, couronnées par la Cour constitutionnelle, expriment quoi? Ceux qui sont honnêtes ne peuvent que démissionner.
Voilà.
Ceux qui sont réalistes, ceux qui sont objectifs. Parce que je demande à la Cour constitutionnelle de voir la justice alléguée à la progéniture. Mm-hmm. Nos enfants doivent hériter de nous. La bonne manière, la justice. Et je demande aux juges restants, au milieu d'un peuple perdu, soyez des étoiles flamboyantes. Monsieur le président de la Cour constitutionnelle, vous représentez les normes, vous représentez la marche du pays, car la justice élève une nation.
Merci beaucoup, Tsingui.
Ne soyez pas dans les sentiments.
Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, Tsingui. Voilà, on comprend votre souci, mais là, on retient. Vous avez d'ailleurs enrichi l'émission avec le dernier arrêt vous pensez pour vous qu'il y a une pression, en tout cas suite à des pressions que ces gens qui préfèrent travailler honnêtement, ils ne pouvaient que démissionner. En évoquant bien entendu les cas de l'arrêt réhabilitant le gouverneur Gazembe et qui a été balayé des revers de la main par la majorité et notamment le ministère de l'Intérieur. Alors Maître Kaouzi, vous êtes de la Cour et aussi secrétaire de plénière, le seul d'ailleurs qui entre lorsqu'il y a plénière. Comment réagissez-vous par rapport à ce que vient de dire Nsingi?
Oui, Monsieur Nsingi parle de l'éclatement de la Cour de la Cour suprême de justice. Il parle de l'immoralité de la Cour constitutionnelle. J'aimerais savoir, que reproche-t-on à la Cour constitutionnelle jusque-là?
La Cour prend un arrêt réhabilitant le gouverneur du Katanga et celui de la Tuapa. Mais cet arrêt n'a jamais été exécuté. Et pourtant, pour d'autres arrêts, notamment l'interprétation de l'article 70, à la conclusion, l'arrêt de la Cour est opposable à tous et exécutoire à la minute. Mais voilà, finalement, on s'est dit, il y a une crise.
Non, il n'y a pas crise. La Cour constitutionnelle dit le droit. La Cour constitutionnelle a prononcé un arrêt et l'exécution de ces arrêts, ce n'est plus son affaire. La Cour vous dit ce qui est censé être. Mais quant à l'exécution, ce n'est pas le président de la Cour constitutionnelle, encore moins leurs excellences, les juges constitutionnels, qui sont censés aller exécuter les décisions qu'ils ont prises.
Donc la politique est au-dessus de la Cour constitutionnelle.
Je ne dirais pas que la politique est au-dessus de la Cour constitutionnelle, mais je dis que la Cour ne s'occupe pas de l'exécution de ces arrêts. Alors, on ne peut pas...
Mais à quoi ça sert la présence de la Cour? Parce que si du moins deux belligérants ou deux personnes se battent, ils disent, ben voilà, la Cour doit trancher pour mettre chacun de nous, en tout cas, tous et chacun à l'aise, mais la Cour elle-même n'a pas un pouvoir contraignant. Ou, à un certain niveau, la politique ne respecte pas la Cour.
Non. Tout est prévu par les textes aussi bien constitutionnels que les textes légaux. Là où le pouvoir de la Cour s'arrête, la Cour ne peut pas aller au-delà. Là où le pouvoir du Parlement s'arrête, le Parlement ne peut pas aller au-delà. Alors, on ne peut pas dire de la Cour qu'il y a dysfonctionnement lorsqu'elle a rendu sa décision en bonne et due forme. Encore là, je pense qu'on aurait dû jeter des fleurs à la Cour. Parce qu'on dit la Cour a rendu une décision qui n'a pas été exécutée. Pensez-vous qu'il y ait eu non, pression?
Mais quand la politique refuse de reconnaître à la Cour ses attributions, ça c'est encore anticonstitutionnel. Je crois qu'à ce moment-là que la Cour devait encore lever le ton pour dire, voilà, la politique, vous agissez contrairement à la Constitution. Et que vous devez sanctionner selon aussi les prescrits de la Constitution.
Si la loi a prévu cela, oui, la Cour peut. Mais si la loi n'a pas prévu,
parce que
lorsque une décision est prise, la Cour est dessaisie du dossier. Tout acte qu'elle pourra poser par la suite, après le prononcé, sera illégal.
Illégal. Donc le gouverneur réhabilité, qu'on n'a plus rétabli dans ses droits, et il est encore légal, et l'autre qui exerce, au Katanga et à la Tuapa, ils sont illégaux.
En tout cas, la Cour est
dessaisie.
La Cour est dessaisie du dossier du moment où elle s'est prononcée. Pour le reste, il ne lui appartient pas ni de commenter, encore moins de dire ce qu'il faut.
Maître Sonville est à Lubumbashi, Sylvain Abounia et Valérie à Kinshasa. Maître Sonville, bonjour. Maître Sonville, vous êtes avec nous? Bonjour. Voilà, on prend Sylvain qui est à Bounia. Sylvain, bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre contribution, Sylvain?
Merci beaucoup. Permettez d'abord que je puisse saluer mon compatriote Ali Bongo Kiamahi, mais aussi l'invité qui est au studio. Je suis vraiment déçu de l'ambivalence de l'expression de l'invité. J'ai retenu que les repères de l'analyse du paysage juridique constitutionnel en RDC part du 19 septembre 2016. Conformément aux articles 70, 74, 211, qui réglementent les processus électoraux au Congo, puisque nous devons le dire, banquier de geste, c'est que la Cour constitutionnelle a comme rôle et la mission d'assurer la protection de l'intégrité constitutionnelle. Ça veut dire le respect absolu de la Constitution. Et alors, si nous extrapolons nos analyses, nous allons le 19 décembre 2016. Il n'y a pas eu organisation des élections au Congo. Et bien donc, la Cour, au lieu de se référer à l'article 74, qui, à l'accouchement définitif du président de la République pour une raison quelconque, et l'État est chez pour manque d'organisation des élections, c'était le président du Sénat qui devait être le chef de l'État dans ce pays. Puisque l'invité se pose la question, où est-ce que la Cour a péché? Avant de répondre à votre question, bien sûr, pourquoi les deux juges ont démissionné? L'invité devrait comprendre tout simplement que lorsque nous regardons notre Constitution, prenons le cas des articles 5, la souveraineté appartient au peuple congolais. Et de cela, allons vers tous les articles qui énoncent les droits des citoyens. Mais écoutez, aujourd'hui, l'enseignement primaire qui devait être gratuit sur l'ensemble de la République ne l'est pas. Est-ce qu'il faut que nous puissions continuer à citer des exemples pour que nous démontrions à votre invité ou à notre invité tous que la Cour constitutionnelle n'a pas joué son rôle lui concédé par la Constitution? Pourquoi? Il faut qu'il nous dise, lorsque on a pris une décision de donner mandat à un chef de l'État hors mandat, de continuer à exercer la fonction du premier citoyen de ce pays, et là, la Cour n'a rien fait. Deuxième chose, regardons dans les pays du monde, toutes les cours constitutionnelles ou les hautes cours de la République contribuent à l'amélioration de la démocratie. Notre pays, je l'ai toujours dit dans cette émission, connaît une crise que nous avons démystifié après les dialogues intercongolais en Afrique du Sud. Nous sommes rentrés pratiquement dans les mêmes situations où toutes les institutions politiques du pays sont presque illégitimes. Et où était la Cour constitutionnelle? Je pense que ce n'est pas pour ce moment qu'il a parlé qu'on doit tromper les Congolais. Nous devons être vraiment patriotes et sincères.
Oui, mais Sylvain, vous êtes sans ignorer que avant l'installation définitive de la Cour constitutionnelle, il y a eu des tractations au niveau sur le plan politique et qui, au fait, la Cour est opérationnelle, si ma mémoire est très bonne, pas très longtemps. Alors, depuis que la Cour est opérationnelle, et c'est vrai que par miracle qu'elle a su d'ailleurs résoudre ou encore prendre quelques arrêts rapidement d'ailleurs. Donc, avec rapidité.
Permettez-moi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est pas ton intelligence. J'ai toujours aimé vos interventions au cours de cette émission. T'as bien aimé, c'est qui a animé l'émission. Même si, pour être installé un jour après, pour moi, on a un rôle à jouer. Alors, permettez que je réponde à votre question. Pourquoi ce juge a démissionné? Mais écoutez, cette question ramène au comportement du rejet de la motion contre le ministre de la Défense nationale, le débat que vous avez fait hier sur la radio. Pourquoi? Puisque lorsque le chef de l'État appelle les députés pour les soumettre à des tortures psychologiques.
Vous n'étiez pas. Bon, Sylvain, je crois que nous devons, quand nous disons des choses, nous devons les dire avec des preuves. Parce que nous, vous et moi, nous n'avons pas été, on n'a pas participé à cette réunion, et il y a parfois des secrets politiques que nous ne pouvons pas en avoir, et le fait que nous n'en avons pas, on ne peut pas tabler sur des rumeurs. Mais la question que je vous ai posée, pour vous, les analyses, que vous inspire cette démission?
En fait, il faut dire clairement qu'il y a des juges qui s'opposent à un besoin d'une classe politique, et pour s'être opposé à certaines visions, à certaines décisions, on est contraint tout simplement à démissionner. Et si vous voulez, dans les émissions prochaines, nous aurons des analyses même comparatives de d'autres pays qui sont nombreuses pour prouver qu'il y a des pressions, puisqu'il faut noter, et je termine par là, toutes les cours constitutionnelles ne sont pas seulement juridiques, elles sont extrêmement politiques. Et tout ce qui se passe dans ces cours révèle évidemment des caractères politiques. Et c'est là où je vous dis, même s'il y a des secrets, comme vous le dites là, je ne réfléchis pas, mais en tout cas, les juges ont des pesanteurs politiques, et des fois, s'ils les contestent.
Oui, un de vos prédécesseurs l'a dit, ça ne peut qu'être lié à des pressions. Mais voilà, donc on reviendra encore avec notre invité. Merci beaucoup, Sylvain, d'avoir appelé et contribué dans cette émission. Valérie, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, JR, bonjour à notre invité.
Quelle est votre contribution à ce niveau du débat? Est-ce que vous pensez que, parce qu'il y a eu pression, que ces juges ont démissionné, est-ce qu'aujourd'hui la Cour se retrouve ou connaît un dysfonctionnement qui pourrait impacter sur les processus politiques électoraux à la RDC?
J'ai dit oui à toutes les deux questions. Premièrement, est-ce que les juges ont subi des pressions? Je dis oui, lorsqu'on se réalise des faits marquants. Premièrement, comment ils peuvent démissionner séance tenante? Deuxièmement, ce que l'invité n'a pas dit, ce sont des juges qui n'avaient pas siégé la fois passée lors disons, quand la Cour devrait rendre son arrêt, tout ça. Alors, vous comprenez que, puisqu'il s'agit seulement de ceux-là, à ce moment-là, il y a quoi conclure? Ce sont déjà les indices. En gros, on cherche les indices. Quand on a déjà quelques indices qui nous permettent de conclure, à partir de là, on exploite la piste. Donc, j'ai répondu à la première question que ce sont des démissions politiques pour moi et non des décisions volontaires. Or, une démission, pour qu'elle le soit en tant que telle, elle doit être volontaire. Deux, dire qu'il y a du fonctionnement, oui, parce que la Cour ne peut pas avoir 6 juges. Elle doit en avoir 9. Bon, si maintenant, lors d'une séance, un ou deux juges s'absentent, ça n'ira pas. Et qu'est-ce qui empêche qu'en toute célérité, on puisse nommer les autres? Je ne vois rien. Et pourquoi on doit rester dans cet état de choses? Troisièmement, l'invité a dit que la Cour, où est-ce que la Cour a pêché? Ça, c'est une bonne question à laquelle je vais vite répondre. Mais sa Cour pêche tous les jours. Ça, c'est un cours qui doit même être du soute. Elle pêche tous les jours. Mon frère, lorsque la CENI, Christian l'a soulevé, que la CENI avait saisi une fois la Cour constitutionnelle, mais Christian a oublié de reconnaître que la Cour s'était statuée, avait siégé là-dessus. Mais la CENI n'a pas qualité de saisir la Cour constitutionnelle. Donc sa Cour a péché. Parce que l'alinéa premier de l'article 161 dit ceci, je lis rapidement. La Cour constitutionnelle connaît les recours en interprétation de la Constitution sur saisine 1 du président de la République, 2 du gouvernement, 3 du président du Sénat, 4 du président de l'Assemblée nationale, 5 d'un dixième des membres de chacune des membres et 6 des gouverneurs de province, 7 des présidents des assemblées provinciales. Où est la CENI là-bas? La CENI n'avait pas qualité de saisir, mais quand elle a saisi, comme elle est de mèche avec la Cour constitutionnelle, celle-ci s'est penchée sur le dossier. Voilà le premier péché de sa Cour. Deuxième péché, nous devons reconnaître que le dernier lien de l'article 60 dit « La Cour constitutionnelle statue dans les délais de 30 jours ». Est-ce que cette Cour statue toujours dans le délai de 30 jours? Dernièrement, la requête qui lui a été introduite, je ne sais même pas si elle s'est rapportée à quoi.
S'est rapportée sur le seuil de représentativité, oui, au niveau de. Et puis, oui. C'est l'opposition et quelques membres de la majorité qui ont déposé. La Cour a statué, oui, 2 mois après.
Oui, entre autres, l'honorable Thomas Lokondo, Malé, que je salue en passant, pour sa neutralité. Mais sa Cour, la Cour de l'invité qui cherche les péchés, sa Cour a péché en statuant delà de 30 jours. Donc, nous avons plusieurs preuves que cette Cour-là n'est pas crédible. La Cour n'est pas crédible et je regrette qu'à ce niveau-là, d'abord, on doit nommer les 3 juges, qu'ils redeviennent 9 et qu'à partir de là, on fasse un tirage au sort. Et troisième péché, l'article au niveau de 158, je ne saurais pas le lire ici, disons, cet article dit ceci, on doit renouveler le mandat tous les 3 ans. Depuis que cette Cour existe, on n'a pas renouvelé le mandat pendant 3 ans. Mais est-ce que c'est à ce niveau-là de la représentation du droit dans un pays sous-continent qu'on peut avoir de tels péchés? Et je voudrais que l'invité nous réponde.
Voilà, merci beaucoup Valérie. Alors bon, vous avez répondu à la question qui a été posée par notre invité. Voilà, maître Kaouzi, vous êtes le secrétaire de plénière à la Cour constitutionnelle. Comment vous réagissez?
J'ai été très content lorsque vous avez dit à l'un des intervenants que on ne peut pas alléguer un fait sans en apporter la preuve. Je peux même aller plus loin pour préciser un fait. Lorsqu'on dit que les juges qui ont démissionné, ce sont ceux-là même qui avaient refusé de siéger. J'ai dit tout de suite non. Je m'en vais donner l'exemple du juge constitutionnel Baniaku Luape, qui était en soins médicaux en Inde. À l'époque, avant même que la Cour ne soit saisie, il était en soins médicaux. Et que donc on ne peut pas prétendre qu'il y aurait pression, ce qui a amené ces juges à pouvoir démissionner. Je dis qu'ils sont les seuls à nous dire le pourquoi de leur démission. Jusque-là, ils ne l'ont pas encore dévoilé. Ils nous ont dit que c'est pour des convenances personnelles. Il a parlé de délai, la Cour ne statue pas dans le délai, mais je l'invite à bien lire la loi. Il est des matières où la loi prévoit le délai dans lequel la Cour doit se prononcer. C'est le cas notamment lorsque la Cour est sur saisine du chef de l'État ou encore de l'Assemblée nationale, le délai est prévu. Mais il est de cas où on dit toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle, il n'y a aucun délai. Lorsque nous nous retrouvons en matière en contentieux électoral, la Cour, la loi a prévu les délais dans lesquels on doit, la Cour doit se prononcer. Il y a des délais de 7 jours qui sont prévus. Alors, il faudrait que nos intervenants essayent de bien lire la loi avant de poser la question. Parce que ces juges-là, ce sont des juges parmi lesquels nous avons des professeurs des universités. Nous avons des anciens juges qui sont venus de la Cour suprême de justice, qui ont fait carrière dans ce corps. Donc, c'est des gens qui maîtrisent avant toute autre personne les questions constitutionnelles. Et que donc ils ne peuvent pas se permettre, étant gardienne de la Constitution, je ne pense pas que ces juges peuvent vouloir faire au-delà de ce qui est prévu dans la loi. Il a parlé encore du tirage au sort qui doit avoir lieu. Je pense avoir déjà réagi.
Il faut nommer et puis procéder au tirage au sort.
Je pense avoir déjà réagi par rapport à cela lorsque j'ai envoyé un communiqué de presse. S'agissant du tirage au sort, je m'en vais préciser un fait. La loi dit que la Cour constitutionnelle organise une séance publique après 3 ans au cours de laquelle un tirage au sort est organisé en vue du remplacement de 3 juges. Là, nous parlons du renouvellement tertiaire de la Cour constitutionnelle. Il s'est fait que, en date du 5 avril, le président de la Cour constitutionnelle a pris une décision convoquant la séance publique au cours de laquelle 3 noms des juges devaient être tirés au sort. Je dis bien 3 noms selon les 3 groupes. Ce qui veut dire lui-même était concerné. Nous sommes le 5. Et la séance publique devait avoir lieu le 9. Arrivé au 8, l'un des juges malheureusement meurt. Qui pouvait prévoir cela? Personne. Comme pour dire, lorsque la décision convoquant la séance publique était prise, personne ne pouvait s'imaginer qu'il y aurait un cas malheureux comme celui-là. Et jusque-là, il n'y a pas encore de démission. Arrivé au cours de la séance prévue, peu avant le tirage au sort prévu, 2 juges annoncent leur démission. Ce qui fait qu'il y a 3 juges. Comme par hasard, les 3 viennent de 3 groupes différents. Je précise que l'objectif ultime du remplacement, du tirage au sort, c'est le remplacement de 3 juges. Ce qui est prévu aussi bien dans la Constitution que dans la loi électorale. On se retrouve le jour où 3 juges devaient quitter la Cour par le mécanisme du tirage au sort. Mais par un concours de circonstances, un est décédé et deux autres démissionnent et qui se trouvent être de 3 différents groupes. Mais c'est quoi la raison d'être de cette disposition qui parle du tirage au sort? C'est le remplacement. Or, il s'est fait que 3 juges sont partis. Il serait 2, on raisonnerait autrement. Il viendrait d'un seul groupe, on raisonnerait autrement. Mais il vient de 3 groupes qui devaient être...
Automatiquement, la disposition marche. Donc, on peut remplacer les 3.
Automatiquement, on remplace le 3 et le renouvellement est effectif. Sera effectif au bout de ce processus parce que nous attendons encore les ordonnances du chef de l'État.
Merci beaucoup, Maître Kaouzi. On aurait bien voulu, en tout cas, aller encore plus loin. Il y a la matière qu'on peut donner pour éclairer la lanterne des uns et des autres. Ce n'est qu'une partie remise. On y reviendra sur la cour. Donc, je crois que peut-être d'ici là, lorsqu'il y aura encore des arrêts de la cour, on ne manquera pas de vous associer, vous, les secrétaires de plénière. Maître Kaouzi Pichou, une fois encore, merci d'avoir accepté notre invitation.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà, on s'excuse auprès de Maître Sonville qui devait en principe intervenir aussi dans cette émission. Faute de temps, on ne saura pas vous passer en onde. On dit merci à Mimi Kindou qui a assuré la mise en onde de cette émission. Pierrot et la Mégie l'a réalisée sous la supervision de Martin Sebujangui. Cette émission vous a été coordonnée et présentée par J.R. Lungembo Luabung Anji. À très vite pour un autre numéro.